Une cloche au loin se lamente dans la nuit. C'est par ces mots que se referme ce poème de Gabriel Pierné, Les cathédrales, prélude pour chœur et orchestre, écrit pour accompagner le poème dramatique d'Eugène Morand. Une œuvre solennelle, patriotique et particulièrement expressive, créée en 1915 au théâtre de Sarah Bernhardt. Juan Jomena dirigeait le chœur et l'orchestre philharmonique de la BBC de Londres. La cathédrale de Reims, où nous avons fait notre première escale, a accueilli de nombreux musiciens célèbres, à commencer par le poète et compositeur du XIVe siècle, Guillaume de Machaut, qui est né près de Reims vers 1300 et mort dans cette même ville en 1377. Machaut a mené une vie d'ecclésiastique en tant que chanoine de Reims. Sa musique a marqué pendant au moins un siècle toute la production artistique européenne. Il avait une maison à Reims, au 4 de l'actuelle rue d'Anjou. Il s'y est retiré à la fin de sa vie. Il repose avec son frère Jean dans la cathédrale de Reims. De Guillaume de Machaut, je vous propose d'écouter le Gloria de la messe de Notre-Dame. C'est l'une des premières messes à avoir été écrite par un compositeur unique. On a longtemps pensé que Machaut, étant chanoine de la cathédrale, l'avait écrite pour le sacre du roi Charles Quint à Reims en 1364. Mais un manuscrit de la bibliothèque de la ville vient réfuter cette hypothèse. Le texte indique que le compositeur avait écrit une messe pour honorer la Vierge Marie, destinée à être chantée tous les samedis matins dans la cathédrale.
Gloria in excelsis Deo.
Thank you.
Le Gloria de la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut par l'ensemble Musica Nova, emmené par Lucien Candel. C'est cette messe qui a longtemps été chantée le samedi matin dans les murs de la cathédrale de Reims, où le compositeur est inhumé. Une transcription du XVIIIe siècle de l'épitaphe de Machaut mentionne « Guillaume et Jean de Machaut, tous deux frères et chanoines de l'église de Notre-Dame de Reims, ce sont eux qui ont fondé la messe de la Vierge qu'on chante les samedis dans la susdite église ». Amis pèlerins, il est temps de se remettre en route. Nous allons poursuivre notre pèlerinage sur la partie française de la Via Francigène, à travers les vignes de la Champagne, où nous attendent d'autres cathédrales gothiques. Notre chemin traverse Châlons-en-Champagne, que l'archevêque de Canterbury Sigéric appelait Châtelounes, puis il suit le cours de la Marne. Nous atteindrons bientôt Besançon, capitale de la Franche-Comté. Besançon, c'est la ville natale de Victor Hugo, qui a vu le jour dans cette ville le 26 février 1802, dans une maison au 140 de la Grand-Rue. À la différence des autres maisons où le célèbre écrivain a vécu, cette demeure n'est ni un musée, ni un lieu de mémoire. On y présente, dans une scénographie contemporaine, les combats de l'homme engagé qu'il était.
Thank you. Thank you.
Marc-André Hamelin était l'interprète de cette Hernani, deuxième paraphrase de concert sur des thèmes de l'opéra éponyme de Verdi, opéra dont le livret repose sur la pièce de Victor Hugo. Mis hors la loi par le roi de Castille, Hernani finit par mourir de sa main dans les bras de son amante Elvira. Liszt en a fait deux paraphrases de concert. Nous écoutions ici la deuxième, qui peut être considérée comme un miroir sombre de la mise en scène de l'opéra et de l'humeur noire du compositeur qui l'a écrit. Nous allons laisser derrière nous la ville de Besançon, où Hugo a vu le jour. À mesure que nous progressons sur la Via Francigena, un paysage de plus en plus vallonné annonce l'arrivée prochaine dans le massif du Jura et le passage imminent de la frontière suisse. Le premier village que rencontre la Via Francigena en territoire helvétique est Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. Les pèlerins que nous sommes allons maintenant cheminer sur un parcours antique, déjà utilisé par les Romains dans leur déplacement vers le nord du continent. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César avait ouvert une route de Rome qui reliait le nord de l'Europe à Rome et qui est rapidement devenue l'épine dorsale du système routier de l'Europe occidentale. À la suite de la domination arabe de Jérusalem en 640, Rome devient alors la principale destination des pèlerinages chrétiens jusqu'au début du culte de Saint-Jacques de Compostelle au Xe siècle. L'itinéraire atteint son apogée vers 1300 avec la proclamation des années saintes. En effet, le pape accorde l'indulgence plénière aux pêcheurs qui entreprennent le pèlerinage vers Rome. Le flux atteint souvent des dizaines de milliers d'usagers chaque année. La Via Francigena est alors l'axe de communication principal entre le nord et le sud de l'Europe, le chemin privilégié le long duquel transitaient marchands, soldats et pèlerins. La pastorale d'été d'Arthur Honegger, une œuvre écrite en 1921 au pied de la Jungfrau dans l'Oberland bernois. La partition porte en épigraphe le premier vers du poème « Aube » tiré des illuminations d'Arthur Rimbaud. « J'ai embrassé l'aube d'été ». Jesús López Cobos dirigeait l'orchestre de chambre de Lausanne. Nous voici donc arrivés sur la partie suisse de la Via Francigena. L'itinéraire va nous conduire de Sainte-Croix au col du Grand Saint-Bernard, en passant par Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, Saint-Maurice, Martigny, Orcières et Bourg-Saint-Pierre. Sans vouloir jouer les chauvins, on dit que c'est la partie la plus spectaculaire de tout l'itinéraire européen. Sans doute en raison de la variété des paysages qu'on peut y admirer, et surtout en raison de la traversée des Alpes. J'en parlerai dans un petit moment. La côte de Sainte-Croix à Vitebœuf permet de découvrir d'anciennes voies à Ornières, uniques en Suisse. Et puis le chemin longe la paisible Venoge jusqu'aux rives du Léman. En chemin, l'abbatiale de Romain Mautier ou les mosaïques romaines d'Orbe sont des haltes incontournables. On sait de sources historiques que Sigéric, l'archevêque pèlerin de Canterbury, à qui l'on doit le premier pèlerinage de la Via Francigena, s'est arrêté à Lausanne et qu'il a ensuite poursuivi sa route jusqu'à l'abbaye de Saint-Maurice. Je vous propose de pousser les portes de la basilique et de profiter de la fraîcheur de l'église en écoutant l'organiste du lieu nous offrir un air de circonstance, le fameux « Chœur des pèlerins » tiré de Tannhäuser de Wagner. Le chœur des pèlerins, tiré de Tannhäuser de Richard Wagner, ici dans une transcription pour orgue signée Franz Liszt. Georges Athanasiades était à la tribune de la basilique de Saint-Maurice. Après Saint-Maurice, la Via Francigena a poursuivi sa route jusqu'à Martigny, l'antique ville d'Octodure, avant d'entamer la montée vers le Saint-Bernard. Le sentier serpente à travers un étroit couloir formé par la Drance sauvage, jusqu'au versant septentrional du col du Grand Saint-Bernard. Du haut de ses 2473 mètres, le col est le point le plus haut de la voie francigène. La montée, même si elle est douce et graduelle, est, paraît-il, assez difficile. Mais les efforts sont récompensés par la beauté des paysages. Cette traversée des Alpes est sans doute le plus gros obstacle de la Via Francigena. Mais vous serez encouragé dans votre ascension par cette incroyable musique que Pauline Demitz a composée pour un film documentaire retraçant l'ascension par deux montagnards du Lixham, un des sommets des Alpes valaisannes qui culmine à 4527 mètres d'altitude. Pauline Demitz en a composé la musique juste après avoir le film et en a fait une véritable symphonie alpine. En voici le premier mouvement intitulé « In Sturm und Eis » dans la tempête et la glace.
Thank you.
Im Sturm und Eis, c'est le premier mouvement d'une symphonie alpine de Paul Hindemith, musique écrite pour un documentaire retraçant l'ascension d'un sommet des Alpes valaisannes. Dennis Russell Davis dirigeait les solistes de l'orchestre symphonique allemand de Berlin. Le pèlerinage de la Via Francigena a atteint à l'hospice du Saint-Bernard une étape marquante, un moment décisif, peut-on lire dans le descriptif de l'itinéraire. À partir du versant italien, les rivières et les routes descendent vers la Méditerranée. La montagne franchie, les pâturages alpins, les torrents et les forêts de conifères laissent la place à un cadre de douceur déjà méditerranéen. La descente est rapide et vous vous trouverez en peu de jours dans les grands espaces de la plaine Padana. Marchez d'un bon pas le long de la rive principale du Pô. Ces villes vous surprendront. Imaginez quelles émotions éprouvait l'archevêque sigérique dont nous suivons les traces à la vue de la mer Méditerranée. J'aimerais ici refermer cette émission avec une citation que l'on trouve sur le descriptif de la Via Francigena, description qui donne un excellent résumé de cet immense parcours. Ne courez pas et arrêtez-vous souvent. Écoutez le déroulement de l'histoire, visitez les cryptes, recueillez-vous en silence dans les nombreuses nefs des églises romanes, réchauffez-vous au soleil sur leur parvis. Jour après jour, votre but se rapproche et vous avez du mal à croire que la campagne romaine devra finir et laisser place à la ville des sept collines et à ses monuments éternels. Vous serez surpris par la force de vos pas qui, avec lenteur et constance, ont compté, mètre après mètre, un peu plus de 2000 kilomètres en 3 mois de chemin. La Via Francigena est une expérience inoubliable. C'est le voyage de la vie.
Thank you.
La marche des pèlerins, c'est le mouvement lent d'Harold en Italie, symphonie pour alto et orchestre en quatre parties d'Hector Berlioz. Colin Davis dirigeait l'orchestre symphonique de Londres avec en soliste l'altiste Nobuko Imai. Ainsi prend fin cette édition de L'Oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, réalisée avec notre pèlerin du jour, Jonathan Hasselbacher. Merci d'écouter RTS Espace 2, il est 17h.